これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
ヘッベンガ。
Le gai savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la lecture, Georges Kless et Julie-Marie Parmentier.
Et à la réalisation, François Connac.
Le philosophe Plotin têta sa nourrice jusqu'à l'âge de 8 ans. À l'exception de quelques frictions dorsales, il négligeait résolument de se laver ou encore de se soigner. Il souffrait d'un flux de ventre qui le rendait pestilentiel et contraignait ses amis à changer de trottoir quand ils le croisaient. Quand les malheureux qui lui frictionnaient le dos moururent eux-mêmes de la peste, il attrapa une esquinancie qui, détruisant sa gorge, le rendit presque inaudible. Avec l'âge, il devint aveugle, tandis que les mains et les pieds se couvraient d'ulcères. Mais son élève Porphyre raconte aussi que, quand il parlait, on voyait l'intelligence briller sur son visage et l'éclairer de sa lumière. Il devenait alors vraiment beau, un peu de sueur coulait sur son front et sa douceur transparaissait.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Qu'est-ce donc qui fait et que les corps peuvent nous paraître beaux et que l'ouïe acquiesce à la beauté des sons?
Et comment tout ce qui touche à l'âme peut-il être beau?
Par ailleurs, est-ce une seule et même beauté qui rend belle toutes ces diverses choses? Ou bien faut-il considérer que la beauté des corps est une chose et une autre celle des autres êtres?
Que sont dès lors ces beautés, ou cette beauté unique? Car certains êtres, comme les corps, ne sont pas beaux d'une beauté gravée au fond d'eux-mêmes, mais en vertu d'une participation. Et d'autres le sont par eux-mêmes, par exemple la nature de la vertu. Et puis, les mêmes corps peuvent tantôt paraître beaux et tantôt non, comme si c'était autre chose qu'être des corps et qu'être beau.
Qu'est donc cette qualité présente et manifeste dans les corps?
C'est ce qu'il faut examiner d'abord. Ce qu'est cette chose qui anime le regard des spectateurs, le captive, l'attire à soi et fait qu'ils se réjouissent d'en avoir la contemplation. Si nous la découvrons, alors faisant d'elle comme un échelon, sans doute disposerons-nous immédiatement de quoi voir le reste de ce qui peut être contemplé.
Alors si on peut commencer par une impression personnelle qui est la mienne, moi j'ai trouvé ce texte assez difficile. Et notamment par les notions qu'il aborde. Par exemple, pour commencer, il parle à un moment du beau par participation.
C'est un problème qui remonte à Platon, en fait. C'est-à-dire que c'est comment le sensible se ressent d'une beauté qu'il n'est pas. La beauté ne se réduit pas au monde sensible, puisqu'elle vient s'incarner en lui. Donc c'est le mystère, au fond, de l'incarnation de la beauté. Comment la beauté peut-elle, sans être affectée, s'incarner dans le sensible? Que reste-t-il de la beauté quand elle est dans le sensible? Que reste-t-il du sensible quand il participe de la beauté, si vous voulez? Évidemment, comment verrions-nous la beauté si la beauté ne s'incarnait pas dans les corps? C'est-à-dire si la beauté ne rencontrait pas l'obstacle de la matière où qu'elle vient informer. L'équivalent de cette question de participation, je crois, on le trouve chez Bergson sous la question de l'élan vital. Il y a chez Bergson l'idée que l'élan vital, ce qu'il appelle l'élan vital, on lui a bien reproché d'ailleurs cette expression, que l'élan vital viendrait se ficher dans la matière. Or, la matière est à la fois l'obstacle et l'organe de l'élan vital. Il faut que l'élan vital s'inscrive dans la matière pour qu'on le perçoive, et dans le même temps, c'est la matière qui vient l'entraver, qui entrave son développement. De même que si nous n'avions pas de corps, nous serions plus libres, sauf que nous ne serions pas. Donc c'est très important cette idée de participation.
Mais vous parliez d'un mépris du corps, enfin du mépris du corps de Plotin lui-même.
Oui, très juste. Plotin est connu pour mépriser le corps, c'est du moins la version qu'en propose Porphyre, son élève Porphyre, dans la vie de Plotin qu'il raconte. Qui est un texte génial, est un texte absolument formidable, une sorte d'évangile, évangile de Plotin, qui est un texte étonnant dans lequel Porphyre durcit le trait en présentant justement Plotin comme un individu répugnant, dont la saleté est en fait l'écrin de la beauté qu'elle dissimule. C'est-à-dire, il fait de Plotin, au fond, l'équivalent au IIIe siècle de Socrate. Plotin n'est pas celui dont la laideur dissimule les joyaux de son savoir, ou les joyaux de sa curiosité, ou de la finesse, de l'acuité de son esprit, comme c'est le cas pour Socrate. Non, Plotin est celui dont la saleté, dont la crasse recouvre la transparence, diaphane. Mais c'est la traduction mystique de Socrate, en vérité. C'est un Socrate mystique, Plotin. Alors, il est socratique dans le fait que, dans bien des dialogues de Plotin, il y a un jeu de questions-réponses. En permanence. Des dialogues dont, d'ailleurs, Plotin lui-même n'est pas l'auteur, mais qui sont des retranscriptions et qui se ressentent d'une conversation avec les élèves. Donc, il y a un jeu de questions-réponses constamment dans les dialogues. Dites-moi, Paula.
C'est pour ça qu'on a choisi, pour l'émission, de faire jouer deux acteurs qui se répondent.
Exactement, car c'est un dialogue avec l'élève et c'est aussi un dialogue avec lui-même. Car, aux yeux de Plotin, l'âme est amphibie. Dans la philosophie de Plotin, toute vertu consiste, l'expression est de lui, et ce sont même ses derniers mots d'ailleurs, toute vertu consiste à faire remonter ce qu'il y a de divin en soi à ce qu'il y a de divin dans l'univers. Et dans cette philosophie, dans ce système, l'âme de l'homme est amphibie. Elle anime un corps matériel, et donc à cet égard, elle court le risque de s'égarer dans ce triste reflet. La matière est un miroir, mais c'est un miroir triste, c'est un miroir sinistre, pas comme la conscience. C'est un miroir qui nous fait prendre nos reflets pour des lanternes. Donc, en ce qu'elle anime un corps matériel, l'âme court le risque de s'égarer dans le reflet matériel, et donc de verser dans l'amour-propre, et de prendre la vessie charnelle pour une lanterne céleste. En ce qu'elle procède à l'inverse de l'âme du monde, c'est-à-dire de son principe, il appartient à l'âme, au contraire, de se convertir, de se recueillir et de s'élever au-delà d'elle-même. Au fond, toute la question pour Plotin, juste pour finir là-dessus, pour que vous compreniez bien cette double nature, cette double appartenance qui est la nôtre, qui est notre condition à ses yeux, la question pour Plotin, c'est de savoir ce que nous choisissons d'oublier. Est-ce qu'on choisit d'oublier les faux-semblants de la matière, ou est-ce qu'on choisit de sacrifier aux faux-semblants fascinants de la matière la véritable réalité qu'il dissimule? Et derrière ce dualisme stylistique qu'on retrouve dans certains textes, l'intention au fond est de vivre l'existence la plus noble, c'est-à-dire en fait de réussir à contempler ici-bas, à l'intérieur du charbon matériel, la lumière venue de son principe. L'ailleurs dont parle Plotin, parce qu'il y a beaucoup de textes de Plotin où il dit fuir ailleurs, aller vers l'ailleurs. L'ailleurs dont il parle ne s'atteint pas en marchant. Il dit, ça n'est pas en marchant, de la même manière qu'on ne peut pas en marchant rejoindre l'horizon. L'ailleurs dont il parle n'est pas un ailleurs qu'on peut gagner en marchant. C'est un ailleurs intime. C'est l'ailleurs que nous portons en nous-mêmes. C'est l'ailleurs dont nous sommes capables. C'est le monde dépouillé de tout ce que sa matière nous prive d'y découvrir. C'est la réalité soustraite par la simplicité du regard à la matière qui le gangrène. Et c'est tout l'enjeu de Plotin. De sorte que son rapport à son corps... Je vous raconte une histoire. Quand j'animais avec Michel Onfray l'Université populaire de Caen pendant 2 ans, mon séminaire était le jeudi soir. Et le vendredi matin, je donnais cours à Jussieu. Et le cours était à 8h30 du matin. Il fallait que j'attrape le Paris-Caen, le Caen-Paris plus exactement, qui partait de Cherbourg et qui arrivait à la gare de Caen à 5h13. Et il y avait une ambiance totalement féerique et en même temps lugubre. Vous imaginez la gare de Caen à 5h13 du matin, le train qui arrive de Cherbourg, c'est même pas le point de départ. Et mélange de brume, de fumée, d'extrême fatigue... Et en même temps, la nécessité de préparer un cours, d'être présent pour les élèves. La juxtaposition d'un corps épuisé et du sentiment qu'en amont de ce corps, derrière lui, que ce corps fatigué dissimulait un esprit qui, en lui-même, parce qu'il n'est pas soumis, ou parce que je me plaisais à penser qu'il n'était pas soumis aux contingences de mon propre corps, se flattait de tourner déjà. Si vous voulez, de fonctionner déjà, de suivre déjà son rythme. C'est une expérience assez plotinienne, c'est-à-dire le moment où l'on se décale de soi-même et où l'on abandonne quelque chose de soi, ou plus exactement, où l'on vit ce qui dissimule quelque chose comme une enveloppe qui recouvre imparfaitement la célérité inentamée de ce qui n'est pas matériel. Voilà. Thank you.
Alors j'en profite pour signaler un essai qui m'a beaucoup aidé dans l'appréhension du traité de Plotin, c'est l'essai de Pierre Hadot, La simplicité du regard, puisque vous...
Plotin ou La simplicité du regard. C'est un essai d'abord magnifique parce que merveilleusement écrit, et c'est surtout un essai écrit à quatre mains. Par Pierre Hadot et par Plotin. Parce qu'il y a à peu près autant de phrases de Plotin que de Hadot dans ce texte. Et en cela, Hadot est plotinien. Car dans la première Énéade de la cinquième partie, il faut savoir que les traités de Plotin sont répartis en Énéades, ce qu'on appelle des Énéades, qui sont des ensembles de 9 traités, rassemblés au mépris d'ailleurs de toute chronologie. Donc il y a 6 Énéades de 9 traités chacune. Et dans le traité 5.1, Plotin dit ceci, il dit... Nos discours n'ont rien de nouveau, et ils ne sont pas d'aujourd'hui, mais ils ont été dits il y a déjà longtemps, toutefois sans être développés. Et nos discours de maintenant ne sont que les exégètes des anciens discours. Que fait Plotin ? Il commente Platon, et il s'en détache, et il s'en éloigne, notamment autour de la question du beau, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Que fait Hadot ? Il commente Plotin. Il commente Plotin et il s'en éloigne en tirant Plotin du côté de la lecture qu'il en propose, qui est une lecture anexacte, c'est-à-dire à la fois extrêmement fidèle et en même temps une lecture qui ne lui est pas identique. Plotin fait pareil avec Platon, c'est un lecteur anexact de Platon. Il est extrêmement fidèle à la lettre de Platon. On verra qu'il y a des tas de références à Phèdre, au banquet ou à la République dans le texte de Plotin, notamment le traité 1-6 dont on va parler aujourd'hui. Mais dans le même temps, ces références sont des excroissances de la pensée de Platon. C'est-à-dire qu'il y a certains passages, comme tout commentateur, c'est la liberté du commentateur, la liberté de l'interprète. Il prend certains passages, il leur donne une ampleur considérable, et il a pris un passage de la République auquel il a donné l'ampleur de toute une tradition de pensée.
Alors, vous parliez de Platon, justement, dans le texte qu'on a lu, il y a quelque chose qui est très platonicien, du banquet. Il parle d'échelon vers la beauté.
Tout à fait. C'est une expression qui est de Platon. C'est une métaphore qui se trouve dans le banquet.
Est-ce que ça signifie qu'il y a une hiérarchie dans la beauté, qu'il faut s'élever comme dans le banquet ?
Oui, il n'y a pas de problème de ce point de vue. L'expression de l'échelon, qu'on a pu traduire aussi par le marchepied d'ailleurs, ou l'étape, si vous voulez, est ce qui, chez Platon, permet par exemple, dans l'ascension vers le beau, de passer de la considération d'un beau corps à l'attention qu'on doit à tous les corps qui sont beaux, pour ensuite découvrir que derrière l'attention qu'on porte à tous les corps qui sont beaux, il y a bien l'attention portée à l'idée du beau qui embellit les corps auxquels nous sommes attentifs, et donc ne pas prendre les corps pour l'objet de l'attention, mais bien comprendre que notre attention se porte sur la beauté dont ces corps ne sont que les dépositaires, au sens littéral du terme, les réceptacles. Et de cette façon, il y a une ascension dialectique vers le beau, qui est également chez Platon une ascension vers le bien. Et il n'y a de ce point de vue aucune différence entre Platon et Plotin. À ceci près, Paola, et c'est ça qui est essentiel, c'est tout l'enjeu du second texte co-lu par Georges Clès et Julie-Marie Parmentier, à ceci près que Plotin détruit l'idée d'une beauté réduite à la symétrie.
Tout le monde, pour ainsi dire, s'accorde à penser que c'est une symétrie des parties entre elles et avec le tout, et le surcroît d'une belle couleur qui font la beauté destinée au regard. Pour les objets sensibles, et d'ailleurs pour tous les autres en général, la beauté consiste donc dans la symétrie et la mesure. Il n'existera par conséquent aucune beauté dans le simple, mais elle sera de toute nécessité dans le composé. C'est le tout qui, selon cet avis, sera beau. Et chaque partie sera belle, non de sa propre constitution, mais de sa contribution à la composition d'un tout, afin que ce tout soit beau. Or, il faut pourtant, pour que le tout soit précisément beau, que ses parties le soient également, et qu'il n'en soit pas composé de laides. Le beau doit toutes les assigner à être belles. Également, selon l'opinion commune, puisque les belles couleurs et par exemple la lumière du soleil sont simples et ne tirent leur beauté d'aucune symétrie, elles ne compteront pas au nombre des belles choses.
Comment dans ces conditions dira-t-on de l'or qu'il est beau, et de l'éclair qu'on voit dans la nuit, et des astres ? Il faudrait également proscrire toute simplicité du registre mélodique, alors même que souvent chaque accent qui fait la beauté d'une partition est déjà beau par lui-même. De la même manière, alors qu'un visage dont la symétrie est constante nous paraît tantôt beau, tantôt laid, comment ne pas soutenir qu'autre est la beauté qui anime la symétrie, et autre, ce par quoi est belle la chose symétrique. Et si, allant de l'avant, nous considérons la beauté des actions et des discours, et qu'on veuille nous faire accroire qu'une symétrie en est la cause, qu'appellerons-nous symétrie dans les belles actions ou dans les lois, ou dans les connaissances et dans les sciences? Comment, en effet, des spéculations pourraient-elles être symétriques les unes par rapport aux autres? Si c'est par quelque concordance, il y a similitude et concordance entre opinions fausses. Est cette opinion, par exemple, que « la tempérance est une sottise », s'accorde celle-ci que « la justice est une naïveté généreuse ». Ces propos vont dans le même sens et se conviennent réciproquement. En outre, toute vertu est bien une beauté de l'âme, et d'une beauté bien plus authentique que celle qu'il y a dans tous les exemples que nous venons d'évoquer. Mais comment sera-t-elle symétrique? Car ce ne peut être ni à la façon des grandeurs, ni à la façon des nombres, même si les parties de l'âme sont multiples. Comment exprimera-t-on enfin la combinaison ou la coalescence des parties de l'âme, ou celle des spéculations? Et que pourrait bien être la beauté de l'intellect, qui par nature demeure isolée?
Lorsque Plotin affirme que le beau n'est pas dans le symétrique, il ouvre la voie aux philosophes tels que Pascal ou même Jean Kelevitch bien plus tard.
Oui, bien sûr. Il donne le jour à tous ceux qui pensent l'indicible, à tous ceux qui pensent l'ineffable, à Rilke, selon qui, dans la première élégie, le beau est le premier degré du terrible. D'ailleurs, un peu plus loin, Plotin parle d'un effroi devant le beau. Il ferait la voix à tous ceux qui considèrent au fond que la beauté n'a pas de sens, que la beauté est un jaillissement, que la beauté est une apparition, que la beauté ne peut pas être expliquée, qu'on ne rend pas raison de la beauté. Il ferait la voix à Kant, qui pense le beau comme universel, bien sûr, une expérience universelle et universellement communicable, mais une expérience universelle à laquelle ne correspond aucun concept. C'est le paragraphe 9 de la critique de la faculté de juger. Il ferait la voie à l'idée d'une finalité sans fin, une beauté qui ne satisfait ni le plaisir ni le concept, comme c'est le cas chez Kant. Il ferait la voie à l'injustice de la beauté qui vient du côté altier qui est le sien. Chez Céline, par exemple, quand Bardamu arrive à New York au Love Calvin et qu'il voit des prostituées assises plongées en de profonds fauteuils comme dans autant d'écrins, qui lui semble attendre là des événements très graves et très coûteux et dont il souffre à l'infini de constater qu'elles ne songent pas à lui. Quand il décrit le beau séparément de la symétrie, quand il désindexe la beauté de la symétrie, il débarrasse la beauté de la science, au fond. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'à l'intérieur d'un texte qui est totalement platonicien, eh bien, il crée une dissidence, une brèche dans le platonisme, en détachant la beauté de la symétrie. Plotin est celui qui permet de penser qu'un visage absolument symétrique est laid. D'ailleurs, c'est monstrueux. Il n'y a rien de plus laid qu'un visage parfaitement symétrique. Si vous prenez la moitié gauche de votre visage et que vous la dupliquez, que vous en faites la moitié droite, vous serez, Paola, Dieu préserve, fort laide. Et cela, immanquablement. C'est-à-dire que non seulement la symétrie n'est pas un gage de beauté, mais elle est même une source de disharmonie.
Et il permet de penser qu'un visage singulier peut être beau.
Eh oui. Comment, dans ces conditions, dira-t-on de l'or qu'il est beau? De l'éclair qu'on voit dans la nuit et des astres et la simplicité du registre mélodique? Il est celui qui permet de penser la beauté de l'unicité, et donc dans sa simplicité. Il est celui qui permet de penser une beauté conforme à l'unicité de notre monde, qui n'a pas de miroir. Il est le père des mystiques de l'immanence, c'est-à-dire Bergson, Jean Kelevitch, Clément Rosset. Il est le père de tous les penseurs de l'immanence, c'est-à-dire de tous ceux qui, considérant qu'on ne sort pas du ciel qui nous contient, s'attache néanmoins à s'intéresser au monde et à ce qu'il a d'insolite et considère que du coup le monde est insolite. C'est parce qu'il ne trouve pas d'explication en dehors de lui qu'il devient insolite. Plotin est celui qui, en s'attachant à penser la beauté séparément de la symétrie, permet de penser l'insolite de ce qui apparaît et de ce qui n'est pas dicible. Il est le père du je ne sais quoi, il est le père du presque rien, il est le père de l'indicible, il est le père de tout ce qu'il y a d'ineffable. Il est de ce point de vue, ce texte-là est un texte absolument majeur, absolument considérable. Par exemple, il dit dans le troisième traité de la cinquième Énéade, il dit ceci: « Peut-on s'arrêter sur des mots ? Non. L'âme éprouve encore et plus que jamais les douleurs de l'enfantement. Peut-être même qu'elle est arrivée au point où il faut qu'elle enfante. Néanmoins, il faut à nouveau recourir aux incantations, si du moins nous pouvons trouver quelque part une incantation pour de telles douleurs. Peut-être pourrait-on tirer cette incantation, si on la répétait souvent. Quelle autre incantation pourrait être considérée comme nouvelle ? Si l'âme a passé en revue toutes les vérités, si l'on veut qu'elle les exprime et les articule de manière discursive, elle fuit ces vérités auxquelles nous participons, car la pensée discursive doit saisir une chose après une autre. C'est là précisément le parcours. Mais quel parcours peut-il y avoir pour ce qui est absolument simple ? Plotin est le penseur de ce qui est absolument simple. Et d'une simplicité qu'il ne s'agit pas d'expliquer, mais à laquelle il s'agit de se mêler, dans laquelle il s'agit de se fondre et d'oublier la partie complexe, étendue, matérielle de soi-même.
Justement au moment l'exemple de la musique. La musique découle bien d'un assemblage de notes. Donc en soi, elle est décomposable.
D'abord, la musique ne dit rien. Et c'est pour ça qu'elle est si précise. On en a parlé à propos de Jankélévitch. Et Plotin parle ici de la simplicité d'une mélodie. Rien n'est plus difficile qu'une telle simplicité. La musique d'abord ne dit rien. Et puis surtout, la musique est tout entière tout ce qu'elle est. Elle exprime tout ce qu'elle exprime. Elle est simplement tout ce qu'elle dit. Et ou tout ce qu'elle exprime, plus que ce qu'elle dit, puisque étant d'une précision évasive, de la précision évasive que lui donnent les notes, elle ne peut rien dire, mais elle exprime tout en ne disant rien. Et c'est après coup, si vous voulez, que vous pouvez vous attacher à concevoir, par exemple, le clavier bien tempéré comme le résultat d'une équation, ou même faire des diagrammes avec un opéra. Mais dans l'instant, l'émotion qui vous saisit devant un concert ou à l'opéra, par exemple. L'espèce d'émotion qui vous saisit n'est en elle-même pas susceptible d'être mise en équation. Elle s'adresse au cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est cela que la musique exprime, c'est cela que la musique signifie, et c'est ce que sa simplicité lui permet de produire. La nature indicible des émotions qu'elle exprime. On peut tout à fait dire « oui, ça m'a ému parce que ça m'a rappelé telle chose ». On peut expliquer l'émotion qu'on a éprouvée. Mais aucune explication n'arrive au genou de l'émotion dans l'instant où on l'éprouve. De la même manière, on peut rétroactivement mettre une musique en diagramme, mais on ne dira rien de la musique telle qu'on l'a écoutée, telle qu'on l'a éprouvée en l'écoutant. Plotin est le penseur de cet oubli de soi, justement, de cet abandon de soi, c'est-à-dire de l'abandon de ce qui se met en équation au profit de ce qui s'éprouve, au profit de ce qui se sent. Par exemple, vous trouvez chez Plotin le récit d'une extase. Le plus fameux est celui-là, il dit « Souvent, m'éveillant de mon corps à moi-même, devenu alors extérieur à tout le reste et intérieur à moi-même, contemplant alors une beauté merveilleuse, sûr alors d'appartenir au plus haut point au monde supérieur, ayant vécu la vie la plus noble, étant devenu identique au divin, m'étant fixé en lui, étant parvenu à cette activité suprême et m'étant établi au-dessus de toute autre réalité spirituelle, quand après ce repos dans le divin, je retombe de l'intellect au raisonnement et je me demande comment j'ai pu jamais et cette fois encore descendre ainsi, comment mon âme a pu jamais venir à l'intérieur d'un corps, si déjà lorsqu'elle est dans un corps, elle est telle qu'elle m'est apparue. » C'est sublime.
C'est beau.
C'est très très beau. Mais c'est très exactement ce qu'on appelle une extase. Qu'on peut mettre en miroir, d'ailleurs souvent je m'éveille, souvent m'éveillant de mon corps à moi-même, qu'on peut mettre en miroir avec « longtemps je me suis couché de bonheur ». Mais ça c'est une
Mais c'est une extase
histoire.
Qui suppose aussi, enfin je pense par exemple à Carl Jaspers, au moment, il appelle ça les états limites, non ? C'est déjà ça. Après avec la descente, et vous citiez Rilke à un moment, et Rilke à propos de la musique dit que la musique l'amène si haut qu'après elle le redescend encore plus bas.
Mais oui, c'est parce que c'est une retombée dans le temps, comme c'est une retombée de l'élan vital dans la matière. On est condamné à redescendre. De la même manière que Zarathoustra commence son récit en descendant sa colline. La fin du premier chapitre d'Ainsi parlait Zarathoustra, c'est ainsi commença le déclin de Zarathoustra. On ne peut pas se tenir en haut de la colline. On ne peut pas se tenir sur le fil. On ne peut pas se tenir sur la crête. On ne peut pas se tenir dans l'instant. On ne peut pas se tenir dans l'extase. On ne peut pas être constamment l'instant d'avant. Vous vous souvenez quand Swann embrasse Odette pour la première fois? Il sait qu'il va l'embrasser. Et il la voit déjà, il voit déjà son visage comme un paysage qu'il va regretter. Parce qu'il sait très bien qu'une fois qu'il sera passé de l'autre côté, c'est-à-dire du côté du baiser et des droits, et de la juridiction nouvelle qu'un baiser crée entre deux êtres, des droits que ça va lui donner sur elle, et de la jalousie, etc., etc., il sait que c'est le début de la fin. Tout l'enjeu est de s'en tenir à l'instant d'avant, si vous voulez. Un être plotinien, rue Gay-Lussac, pendant des années, il se trouve que je devais, pour aller à l'école, remonter la rue Gay-Lussac. Rue Gay-Lussac, pendant des années, je voyais un homme penché sur le trottoir, qui donnait très exactement, qui avait une barbe, on aurait dit Dostoïevski, c'était étonnant, et qui donnait très exactement, mais vraiment, l'impression d'être sur le point de lever le pied pour traverser la rue. Je le croise un matin, je dis, ben, le type va traverser, puis je continue. Je sors de l'école, hein, il était 18h, je redescends la rue Gay-Lussac, le même homme était dans la même position. Il y avait une sagesse supérieure dans la folie de cet homme-là, qui se tenait constamment, juste dans, sur l'instant d'avant. Une sagesse qu'on retrouve dans l'intuition stendhalienne, qu'en amour, ce qui compte, c'est de monter les escaliers, si vous voulez. C'est-à-dire une sagesse de l'instant d'avant, une sagesse qui est, au fond, une critique du bonheur, puisque le bonheur acquis est un bonheur conscient de lui-même, et c'est donc un bonheur qui regrette sa propre disparition, qui donc fait déjà son deuil de lui-même. Une sagesse du temps, une sagesse à laquelle notre condition temporelle nous contraint et à laquelle nous ne pouvons pas nous tenir. La partie de nous-mêmes qui est susceptible de matière, perméable à la matière, et donc susceptible de retomber dans le temps, cette partie de nous-mêmes, cette partie qui s'expose à la temporalité, la partie de nous-mêmes qui retombe, qui déchoit en permanence, et la grande douleur, c'est la grande déchirure, si vous voulez. On ne peut pas se tenir dans l'extase, on ne peut pas rester dans l'extase, on ne peut pas abolir le temps. Au temps suspend ton vol, combien de temps ? Vous aviez ça en tête à ce moment-là, c'est le dialogue à distance.
Oui, c'était surtout une colle de philo, si je peux me permettre, qui est tombée il n'y a pas longtemps.
Ah oui.
Donc j'y pensais.
Eh bien voilà. Mais il faut bien comprendre que Plotin est un, comme Platon d'ailleurs, ce sont des penseurs de l'oubli, mais de l'oubli de soi, au nom d'une mémoire supérieure. La réminiscence chez Platon est un souvenir qui va plus loin que soi. Il faut s'oublier soi-même pour accéder à la réminiscence. Abjurer, par exemple, ses préjugés ou ceux dont nous sommes certains, modèle cartésien chez Platon, avant Descartes, pour accéder à une réalité supérieure dont la mémoire nous vient à ce moment-là. Mais c'est une mémoire plus vaste que nous, c'est une mémoire antique, c'est une mémoire dont nous étions les dépositaires avant que notre âme s'incarne dans un corps. Chez Plotin, c'est la même affaire. Par exemple, à un moment, il dit « nous ». Mais nous, qui nous ? Sommes-nous la partie de l'âme qui demeure toujours dans l'esprit, ou bien sommes-nous ce qui s'est ajouté à elle et qui est soumis au devenir du temps ? Ne faut-il pas dire qu'avant que se produise la naissance actuelle, nous étions, dans le monde transcendant, d'autres hommes, certains d'entre nous même des dieux, nous étions des âmes pures, nous étions esprits, unis à la totalité de l'être, partie du monde spirituel, sans séparation, sans division, nous appartenions au tout, et même encore maintenant, nous n'en sommes pas séparés. Ce sont des grandes philosophies nostalgiques. Ils sont nostalgiques d'une fusion. Ils sont nostalgiques d'une fusion à l'intérieur de laquelle nous nous oublions nous-mêmes pour nous retrouver nous-mêmes. Nous remplaçons l'introspection narcissique de celui qui se demande ce qu'il est, qui se regarde lui-même dans un miroir, par la connaissance de soi, qui est en fait connaissance de son principe, qui fait qu'un corps s'élève jusqu'à l'âme, qu'il est également.
Plotin parle d'intelligence. Dans quoi réside la beauté de l'intelligence ?
Je ne peux évidemment pas... Il nous faudrait des heures et des heures et des heures pour répondre à cette question. Mais pour vous répondre rapidement, ce que Plotin dit et sa valeur ajoutée dans son éthique, dans cette éthique du don qu'il met en place, du don de soi, de l'oubli de soi, du don de l'être, de la présence au monde, Plotin fait droit à la beauté intelligente. C'est-à-dire non seulement la beauté de l'intelligence, mais par exemple la beauté symétrique. Mais il dit que ça n'est pas la symétrie qui la rend belle. De la même manière, ça n'est pas l'intelligence qui fait la beauté de l'intelligence, si vous voulez. Il faut ici juste, rapidement hein, quand même, dire quelques mots du système de Plotin. Parce que là, on est de plein pied dans le système de Plotin, et puis on parle, on n'aura rien dit hein, au bout d'une heure. Enfin, je veux dire, on aura à peine fait le tour d'une virgule. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les meilleures descriptions du système de Plotin se trouvent chez Lucien Gerfagnon. Gerfagnon parle de Plotin à merveille. En lisant Gerfagnon, vous lirez Plotin, Platon, Aristote, Augustin et même Montaigne. Comment ça marche, Plotin ? Plotin, c'est un voyage immobile. Vous avez dans Dune de David Lynch, comme ça, le secret des épices qui est de voyager sans bouger. Traveling without moving, ils disent. Ben voilà, on est chez Plotin. C'est un trip, hein, Dune. Hein. Et Plotin aussi, c'est un trip. C'est un voyage immobile, dont les tribulations dessinent la hiérarchie entière du monde, de l'en-deçà jusqu'à l'au-delà. Alors, on le fait de haut en bas. Au sommet, c'est-à-dire plus haut que tout et plus haut que la hauteur elle-même, se trouve l'un. Au-delà de la beauté, au-delà du symétrique, au-delà du mouvement, au-delà du repos, se trouve l'un, que Plotin appelle aussi l'un bien, ou le premier. Et alors, il y a une différence à faire, on en parlera la semaine prochaine, entre l'un bien et le dieu de Descartes. C'est que le dieu de Descartes, Paola, contient toutes les perfections et donc ne peut qu'exister puisque l'inexistence serait une imperfection. En revanche, chez Plotin, l'un, c'est ce qui donne le jour. C'est ce qui fait être, mais qui n'est pas lui-même. Parce que ce serait déchoir d'exister. Ce serait trop peu dire de lui que de dire qu'il existe. Ce serait rater l'essentiel que de dire que l'un existe. Le seul fait d'être serait un caractère secondaire, une cicatrice dans sa plénitude. Si le premier principe, l'un bien, était, il serait moins que ce qu'il est en n'étant pas. Être, ça n'est déjà plus être assez. De la même manière, par exemple, que Guitry a pu dire que être assez intelligent, c'était précisément n'être pas assez intelligent. Eh bien, être, c'est n'être pas assez pour l'un. Donc l'un est au-delà de ce qui est, c'est l'au-delà au sens pur. Il ne désire rien, rien ne lui manque. Il excède tout ce qu'il engendre, il engendre tout ce qui existe, à la manière dont le trop-plein déborde et se répand alentour. Et débouche sur de l'existence. C'est le vide taoïste. Hein. C'est une plénitude absolue dont naissent tous les êtres et à laquelle en retour tous les êtres aspirent indéfiniment. Bien. Et vous avez ensuite, en deçà de l'un, l'intellect. C'est le premier-né, c'est le fils aîné du Père. Et de cet engendrement céleste, vous avez l'intellect, c'est son fils aîné. C'est le plus haut degré de l'existence. C'est le monde diaphane des formes et des forces que Platon désigne comme le monde intelligible et qui est toute beauté, transparence divine, perfection en acte. Mais on est dans le monde de l'essence. L'un est au-delà de l'essence. Or, cette phrase-là est de Platon, pas de Plotin. Mais Platon ne le dit qu'une fois dans La République. Plotin a pris cette phrase et en attirer toute sa conception de l'un, qui est fondatrice, qui est fondamentale, qui donne le jour à un platonisme immanent, c'est-à-dire à une conception du platonisme qui s'ouvre, au fond, sur l'infinité d'un monde dont nous ne sortons pas. Et en deçà de l'intellect, vous avez l'âme du monde, qui hérite de l'unité souveraine pour la répandre ensuite dans le cosmos jusqu'au vivant le plus infime, c'est-à-dire le plus matériel. Et en fait, le processus que je vous décris ici est ce qu'on appelle un processus de procession. L'un descend jusqu'aux âmes, et en fait jusqu'à la matière. Il y a des tas de problèmes avec la matière chez Plotin. Parce que soit la matière est produite par... La matière, c'est le mal. Soit la matière est produite par l'un, ce qui va de pair avec l'idée qu'il n'y a qu'un seul monde, avec le holisme plotinien, auquel cas il faut admettre que le bien produit le mal. Soit la matière est un principe autonome, auquel cas il y a des choses dont l'existence échappe à l'unité. Et Plotin se pose un problème qui sera le problème de Leibniz avec la théodicée, la question du mal, 14 siècles plus tard. Mais de temps en temps, Plotin dit que la matière est née de l'un ou que la matière naît du fait qu'on se regarde soi-même au lieu de regarder vers son principe, c'est-à-dire au lieu de s'élever, on se regarde soi-même et du coup on déchoit, comme Narcisse. La figure de Narcisse revient deux fois chez Plotin. Tantôt, il dit que la matière est un principe premier qui fait que nous pouvons déchoir. Soit la matière est née du fait que nous sommes tombés, soit la matière fait que nous ne sommes pas capables de nous élever et que par conséquent nous tombons. Il y a ces deux statuts de la matière chez Plotin, selon qu'il est moniste ou dualiste, et il est très exactement l'un et l'autre. Il y a une contradiction chez Plotin là-dessus, qu'il résout à un moment, mais en disant que la matière, c'est comme un esclave recouvert de chaînes en or. Donc une sorte de solution ad hoc, de compromis qu'il trouve. Mais il faut bien comprendre que ce que Plotin décrit, c'est un univers. C'est-à-dire que ça tend vers l'un, littéralement. Et que le mouvement de procession et de conversion, c'est comparable à deux téléphériques. Vous savez, les téléphériques dans les stations-service sont sur le même fil, donc se croisent toujours au même moment. Un peu comme les TGV, par exemple. Si vous allez à Lyon, vous allez croiser le TGV à mi-chemin. Ça va à toute vitesse, d'ailleurs. Il faut être très attentif pour voir passer le train à ce moment-là. Puisque à la vitesse du train qui est le vôtre, s'ajoute la vitesse du train qui arrive dans l'autre sens. Bien, il y a ces deux mouvements. De la même façon que deux téléphériques se croisent parce qu'ils sont suspendus au même rouage, le mouvement chez Plotin qui descend de l'un, qui est trop pour se contenter d'être, jusqu'à la matière, si peu qu'elle n'est même pas, ce mouvement détermine celui simultané de conversion, qui incite chaque réalité, de la plus misérable, matérielle, à la plus noble, à se tourner vers son principe, à remonter jusqu'à lui. C'est tout bête, on ne pourrait pas s'élever si on ne descendait pas. Et au fond, qu'est-ce que décrit Plotin ici? Un cœur battant. Diastole, systole. Ou la vague et le ressac. Il décrit les deux mouvements dont palpite le monde. Je vous ai parlé d'un voyage immobile. C'est un voyage immobile parce que enfin, c'est un voyage qu'on fait en nous-mêmes. Nous sommes le théâtre atopique d'un voyage immobile qui nous conduit de l'un à la matière et de la matière à l'un sans cesse, comme nous respirons. Donc, c'est une psychologie, Plotin, aussi. C'est pas seulement une ontologie, c'est une psychologie, mais qu'il faut entendre au sens fort. C'est un discours de l'âme. C'est une psychologie. Et c'est sublime pour cette raison-là. Et c'est aussi pour cette raison-là que c'est un penseur de l'âme, de l'intimité. D'une émotion, des émotions intimes, de ce que les émotions peuvent avoir de plus intime, c'est-à-dire de plus étranger à la partie ordinaire, temporelle de nous-mêmes et de plus proche de ce que nous avons d'éternel.
Alors, pour Plotin, l'une des images de la beauté, c'est par exemple le feu, dans le texte qu'on va entendre maintenant.
Quant à la beauté de la couleur, dont la forme est simple, elle domine l'obscurité de la matière et résulte de la manifestation d'une lumière incorporelle, qui est à la fois raison et idée.
D'où il ressort que le feu lui-même surclasse en beauté les autres corps, parce qu'il occupe, par rapport aux autres éléments, le rang d'une idée. Il tend à s'élever en hauteur et s'avère le plus léger de tous les corps, et comme le plus proche de l'incorporel. Il est seul à n'accueillir aucun autre corps, alors que les autres l'accueillent en eux. C'est que s'échauffe, tandis que lui ne froidit jamais. Et lui est primitivement couleur, tandis que les autres corps ne reçoivent la forme de la coloration qu'à sa proximité. Il éclaire donc et brille comme s'il était une idée. Mais toutes les choses qui lui sont inférieures, et dont sa luminosité vient à effacer l'éclat, ne peuvent par conséquent plus être dites belles, attendu qu'elles ne participent pas de l'idée totale de la couleur.
Quant aux harmonies imperceptibles des champs, ce sont elles qui font les harmonies perceptibles. Elles éveillent par ce moyen l'âme à la conscience de la beauté, en lui révélant sous des différences une véritable identité. Il s'ensuit que les harmonies sensibles sont mesurées par des nombres, dont l'ordre n'est pas arbitraire, mais subordonné à l'action dominatrice de l'idée.
Au dents de la crémaillère pendait le chaudron noir. La marmite sur trois pieds s'avançait dans la cendre chaude. Soufflant à grosses joues dans le tuyau d'acier, ma grand-mère rallumait les flammes endormies. Tout cuisait à la fois. Les pommes de terre pour les cochons, les pommes de terre plus fines pour la famille. Pour moi, un œuf frais cuisait sous la cendre. Le feu ne se mesure pas au sablier. L'œuf était cuit quand une goutte d'eau, souvent une goutte de salive, s'évaporait sur la coquille. Un jour, enfant coléreux et pressé, je jetai à pleine louchée ma soupe aux dents de la crémaillère. « Mange, cramaille, mange, cramaille !» Mais les jours de ma gentillesse, on apportait le gaufrier. Il écrasait de son rectangle le feu d'épines, rouge comme le dard des glaïeuls. Et déjà la gaufre était dans mon tablier, plus chaude aux doigts qu'aux lèvres. Alors oui, je mangeais du feu, je mangeais son or, son odeur, et jusqu'à son pétillement, tandis que la gaufre brûlante craquait sous mes dents. Et c'est toujours ainsi,
par une sorte de plaisir de luxe comme dessert, que le feu prouve son humanité. Il ne se borne pas à cuire, il croustille, il dore la galette, il matérialise la fête des hommes.
Qu'est-ce que c'est beau ?
Qu'est-ce que c'est ?
C'est Bachelard dans la psychologie.
C'est la psychanalyse du feu.
C'est la psychanalyse du feu, bien sûr.
C'est la psychanalyse du feu de Bachelard. Ce texte merveilleux de Bachelard que je lis à dessein en sortie du texte que Julie-Marie et Georges ont lu pour nous, je le lis parce qu'il est une émanation, pour parler plotinien. Le texte de Bachelard est une émanation du texte de Plotin et de ce qu'il dit du feu. Plotin fait grand cas du feu parce que il a l'intuition au IIIe siècle que le feu est une sorte... il a l'intuition du plasma. Je parle sous le contrôle des gens qui savent ça. Mais il a l'intuition de ce quatrième état de la matière qui n'est ni liquide, ni gazeux, ni solide, mais plasma. Et auquel peut-être le feu correspond. Il fait grand cas du feu. Parce que le feu est peut-être la seule version de la matière qui trouve grâce à ses yeux. D'abord parce que c'est une version ascendante de la matière. Ensuite, parce qu'il dit, il tente à s'élever en hauteur et s'avère le plus léger de tous les corps, et comme le plus proche de l'incorporel, et il est seul à n'accueillir aucun autre corps. Donc c'est un corps particulier, c'est un corps si léger, si gracile, c'est de tous les corps celui qui est peut-être le moins l'obstacle à la transparence, qu'il guette tant, qu'il espère tant, et qui ne se donne à voir qu'à travers le filtre de la matière. La transparence n'est possible que s'il y a une matière qui résiste et qui donc nous en donne le désir. Plotin est le premier penseur des organes obstacles, cher à Bergson et à Jean Kelevitch, c'est-à-dire de l'idée que la mort est ce qui prive la vie de son sens, parce qu'elle y met un terme, et en même temps, c'est ce qui lui donne du sens. De la même façon, le fait que j'ai des yeux me permet de voir et m'empêche de voir ce que j'ai dans le dos, et ainsi de suite.
C'est la phrase de Bichat, la vie et l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort.
La vie et l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. L'autre élément dans le texte qu'on a entendu, qui est très intéressant, c'est, dites-moi Paola,
je ne sais pas, peut-être vous pensez au fait que Plotin est le précurseur des petites perceptions de Leibniz.
Oui, Plotin est le premier théoricien des petites perceptions de Leibniz. On en a parlé des petites perceptions quand on a parlé de la monadologie. Et je dois dire que dans ce texte, Plotin donne une version des petites perceptions qui est encore plus intéressante que celle que propose Leibniz. Les petites perceptions de Leibniz, pour mémoire, c'est des trucs qu'on perçoit, mais qu'on n'aperçoit pas. On les perçoit, mais on n'en a pas conscience. Leibniz prend la vague, on en a parlé, il prend la vague et il dit « Nous ne percevrions pas le bruit de la vague si nous ne percevions pas les milliards de gouttelettes qui le constituent. Seulement, nous sommes conscients du bruit de la vague et nous ne le sommes pas du bruit des gouttelettes. » Mais le fait que nous percevions la vague, que nous apercevions la vague, c'est-à-dire une perception que nous le percevions et que nous en ayons conscience, prouve que nous avons perçu, sans en avoir conscience, les milliards de gouttelettes qui la composent. Théorie des petites perceptions. C'est très bien, c'est très explicite, c'est très pédagogique. L'exemple de Leibniz fonctionne bien. Mais chez Plotin, c'est encore plus fort. Chez Plotin, quant aux harmonies imperceptibles des chants, ce sont elles qui font les harmonies perceptibles. Avez-vous remarqué, Paola, que les foules chantaient toujours juste.
Maintenant que vous
non, mais vous prenez une foule de supporters du Paris Saint-Germain chante juste. Une foule composée d'individus qui, pris individuellement, chantent comme des casseroles, chante juste. Par quelle bizarrerie, par quelle étrange harmonie préétablie, une foule chante juste quand bien même elle serait composée de gens qui chantent comme des gorets. Comment c'est possible, ça? Comment ça marche? La justesse du chant de la foule prouve bien que nous percevons... Alors, du point de vue de Plotin, les harmonies imperceptibles des chants prouvent que chacun chante juste, en vérité. Il dit, quand quelque chose... Il parle de quelque chose de beau est beau en chacune de ses parties. Donc, au fond, Plotin est attentif à la beauté singulière de chaque individu. Le fait que la foule chante juste serait compris par lui comme étant la preuve que chaque individu, au fond, chante juste. Mais le mystère de la justesse d'une foule qui chante est à mon avis à comprendre de cette façon-là. C'est-à-dire, ce sont les harmonies imperceptibles qui font l'harmonie perceptible, l'harmonie globale.
Dis-moi, moi, j'ai beau t'aimer d'amour, je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin. Je n'ai pas la vertu des femmes de marin.
Alors, ce qui est vraiment magnifique chez Plotin, c'est le rapport qu'il entretient avec le sensible, dont l'énigme est contenue dans le mot que vous avez si opportunément signalé au début de cette émission, le mot de participation. Toute la difficulté est là. Il y a, chez Plotin, l'idée qu'il faut se tenir hors des affaires humaines, qu'il faut fuir seul vers le seul. C'est la dernière phrase des Énéades, 6-9, à la toute fin. L'idée qu'il faut s'élever, fuir, se débarrasser, son corps lui-même en témoigne. Mais dans le même temps, cette fuite, encore une fois, n'est pas une fuite qu'on atteint par les pieds, c'est pas une fuite qu'on atteint même en grimpant une montagne. Ça n'est pas une fuite qui se trouve dans l'espace. C'est une fuite qu'on trouve en nous-mêmes.
C'est pas le voyage d'Ulysse.
C'est le voyage d'Ulysse entendu comme ce qu'il est, c'est-à-dire une métaphore. C'est le voyage d'Ulysse, avec toute la nostalgie dont il témoigne. Pourquoi c'est le voyage d'Ulysse ? Parce que Ulysse, quand il est en route vers Ithaque, par exemple quand il s'arrête sur les rivages de Circé, pendant 7 ans il pleure. Et puis elle le laisse partir. Ulysse a la nostalgie de son chez-lui. Puis il rentre. Et hormis Ulysse, qu'Athéna préserve dans sa jeunesse et sa vigueur, son fils est grand, sa femme est vieille, son chien meurt en le voyant. Sa fidèle servante est un peu dure d'oreille, elle le reconnaît, mais enfin bon, elle n'entend plus grand-chose. Les choses ont changé, le temps a passé. De sorte que l'endroit où il revient n'est pas l'endroit dont il avait la nostalgie. Ulysse est celui qui nous enseigne que la nostalgie a toujours un coup d'avance. Nostalgie, en grec, étymologiquement, c'est la douleur du retour. Mais le retour dont nous avons le regret, donc c'est à la fois le regret de ne pas être retourné à l'endroit dont nous avons la nostalgie, mais c'est également le regret, une fois qu'on y est, de constater que cet endroit n'est pas celui dont on avait le regret, parce que l'endroit lui-même a changé.
Et parce qu'on n'a pas pu y ramener notre jeunesse.
Et parce qu'on ne peut pas y ramener notre jeunesse. Françoise Hardy, Paola, il savait rire, tous mes amis, il savait si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie et j'ai dû partir. Les larmes aux yeux, mes amis m'ont demandé, etc.
Il savait rire, tous mes amis, il savait si bien partager mes jeux. Mais tout doit finir pourtant dans la vie et j'ai dû partir. Les larmes aux yeux, mes amis me demandaient pourquoi pleurer. Découvrir le monde vaut mieux que rester. Tu trouveras toutes les choses qu'ici on ne voit pas.
Plotin est un penseur de la nostalgie en ce sens-là. D'abord parce que rien de ce qui existe dans le sensible n'est de nature à satisfaire le désir qui est le nôtre. Et aucun voyage n'est de nature à combler notre attente. De la même façon, d'ailleurs, on est plotinien quand on avertit celui qui veut fuir ses responsabilités en partant à l'étranger, ou bien en s'éloignant ou en quittant les siens. On est plotinien quand on l'avertit que ça n'est pas de cette manière qu'on s'en va. Ça n'est pas de cette façon qu'on se débarrasse des autres, et bien au contraire d'ailleurs. C'est même de cette façon qu'on prend les autres sur le dos comme un fardeau.
Mais il faut fuir à l'intérieur de soi, en soi-même.
C'est à l'intérieur de soi qu'il faut fuir, et cet intérieur de soi est extraordinaire parce que c'est un intérieur qui n'est pas un moi. Le moi est au fond, Plotin permet de penser le moi sur un mode très pascalien, est au fond le résultat d'une réification abusive de l'individu qui, fasciné par lui-même, se regarde dans la glace, se satisfait de lui-même et, tel Narcisse, tombe à l'eau, amoureux de son propre reflet. Faux amour, amour fallacieux, amour spécieux. L'introspection est paradoxalement, chez Plotin, ce qui nous éloigne du moi. Parce que c'est mal se connaître que d'être amoureux du moi. C'est mal se connaître, se bien connaître ou bien se connaître, c'est connaître ce qui en soi n'est pas de soi, mais relève du principe qui nous a enfantés, qui nous a donné le jour. Bien se connaître, c'est connaître l'autre qu'on porte en nous. Augustin saura s'en souvenir quand il parlera de l'intime en faisant l'autre nom de Dieu. Bien se connaître, c'est accéder à cette intimité-là. Nietzsche est de ce côté-là quand il distingue le moi du soi. Nietzsche est un penseur plotinien parce que Nietzsche est mystique. C'est pour ça, par exemple, qu'on trouve chez Plotin une critique de la conscience de soi, qu'on retrouve alors là explicitement chez Bergson et chez Jean Kélévitch. Critique de la conscience de soi. Il dit ceci: « On trouverait facilement, même dans l'état de veille, alors que nous pensons ou agissons, de belles activités, que ce soit des contemplations ou des actions, qui ne sont pas accompagnées de la conscience que nous pourrions avoir d'elles. Car il n'est pas nécessaire que celui qui lit ait conscience qu'il lit, surtout lorsqu'il lit avec intensité. Et de même, celui qui fait un acte de courage n'a pas conscience qu'il agit en conformité avec la vertu de courage au moment où il accomplit son acte. Ainsi, les prises de conscience risquent d'affaiblir les actes qu'elles accompagnent. S'ils ne sont pas accompagnés de conscience, les actes sont plus purs, plus actifs, plus vivants. Et certes aussi, lorsque les hommes de bien parviennent à un tel état, leur vie est plus intense, parce qu'elle ne se déverse pas dans la conscience, mais qu'elle est concentrée en elle-même, en un même point. Et le point dont il parle, c'est le point dont Bergson parlera plus tard, ce point autour duquel nous tournons sans cesse, où se trouve quelque chose de si simple, de si extraordinairement simple, que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Vous voyez, l'enjeu chez Plotin, c'est de donner à voir un monde de formes, tel que la matière en est l'écrin, tel qu'elle lui permet de s'exprimer, mais tel en même temps qu'elle le recouvre. C'est-à-dire un monde sensible, libéré de ses conditions matérielles. C'est le philosophe d'une ascèse. Il faut s'apurer, ou plutôt se dépouiller, de tout ce qui nous sépare, de la transparence dont nous sommes faits, dont nous sommes constitués. C'est une idée de la transparence qui, à mon avis, est le contraire de la transparence au sens où Rousseau peut l'entendre, d'ailleurs. C'est une véritable transparence. Il dit à un moment, ce monde sensible avec chacune de ses parties restant ce qu'elle est sans se confondre avec une autre, saisissons-le par la pensée, autant que cela est possible, comme une unité dans laquelle tout tient ensemble. De telle sorte que, si l'une quelconque de ces parties nous apparaît, par exemple la sphère extérieure qui enveloppe le ciel, la représentation du soleil et en même temps celle des autres astres suivent immédiatement, et que deviennent visibles aussi la terre, la mer et tous les vivants, de la même manière qu'il serait possible que dans une sphère transparente, toute chose puisse effectivement devenir visible. Tant que la forme est à l'extérieur, dit Plotin, c'est fabuleux ça, tant que la forme est à l'extérieur, nous ne la voyons pas encore.
Bon, et c'est en ça que je trouve que c'est très purificateur, purifiant, je ne sais pas, de lire Plotin.
C'est difficile de lire Plotin.
Il faut bien le dire,
parce qu'il y a la matière du texte. C'est vraiment difficile de lire Plotin. D'ailleurs, on va finir cette émission sur un long texte de Plotin qui sera lu par Georges Clès et Julie Marie. C'est difficile parce que c'est justement la difficulté du texte, le caractère dialogué de ces textes, le fait qu'il y ait des envolées magnifiques à l'intérieur de passages franchement indigestes. La matière du texte nous sépare de ce qu'il dit, de ce qu'il peut dire, un peu comme chez Kant. Vous avez des auteurs qui sont limpides immédiatement, Jean Kelevitch, Pascal, Bergson par exemple, différemment mais aussi, Nietzsche en un sens. Plotin, Kant, Aristote sont des auteurs qui sont séparés de ce qu'ils veulent nous dire par la matière même de leur style, de leur écriture. Mais moi, j'invite tout simplement Spinoza, l'auteur le plus séparé de lui-même par la matière de son texte. C'est un texte indigeste et imbitable, alors que ce qu'il dit est indépassable. Mais vraiment, il faut faire cet effort. Il faut traverser cette matière. C'est pas grave de marcher dans du Nutella pendant des semaines, des mois, des années. Ce que ça permet d'entrevoir ensuite, quand on s'est vraiment exercé, quand on a fait cette ascèse, cet exercice, cette purification, en quoi consiste l'exercice même de la philosophie ? Quand on a fait ce travail-là, ce qu'on en retire, l'espèce de lumière qu'on en retire, est une lumière qui n'a pas d'équivalent et qui surtout n'est pas menacée par les contingences de la vie. Et que quoi qu'il arrive dans la vie, nous conservons en nous un foyer lumineux. C'est aussi cela, la philosophie. C'est le maintien de la lumière à l'intérieur d'une grisaille qui n'en est plus que l'écrin, sinon l'anecdote.
Quel est le procédé pour accéder au beau ? Comment peut-on contempler cette beauté sublime qui paraît devoir demeurer comme à l'intérieur de temples sacrés et ne pas s'aventurer au dehors afin que nul profane n'en ait la vision ?
Qu'il aille donc celui qui en a la force la poursuivre dans l'intimité de son propre être, délaissant la vision oculaire sans plus se disperser dans ce qu'il croyait auparavant être l'éclat des corps. Il faut, quand on sait voir les beautés corporelles, renoncer cependant à y tendre, et même au contraire, quand on sait qu'elles ne sont que des images, des traces et des ombres, se hâter vers le principe dont ces beautés corporelles ne sont que des images. Fuyons vers notre patrie bien-aimée. Voilà le plus véridique conseil.
Mais quelle fuite ! Et comment gagner le large ?
Nous sommes dans la situation d'Ulysse, qui, à ce qu'on rapporte, me semble-t-il, avouait exécrer la compagnie de Circé, la magicienne, ou de Calypso, malgré les voluptueux spectacles dont il jouissait et le commerce qu'il pouvait avoir avec des beautés tout à fait sensibles. Notre patrie, à nous, est celle d'où nous venons, et là est le père.
Mais quelle pourrait être notre odyssée ? Et quel est le moyen de notre fuite ? Ce n'est pas à pied que nous pourrons parvenir à destination, car nos jambes ne nous portent jamais que d'une terre à l'autre.
Et ne t'avise pas plus d'apprêter un attelage ni d'armer un bateau. Au contraire, renonce à tout cela. Refuse d'y porter le moindre regard. Et comme te fermant à toute vision sensible, change-la pour une autre qu'il faut réveiller, que tous possèdent, mais dont si peu font usage.
Qu'est-ce donc que cette vision intérieure ?
Retire-toi en toi-même et observe. Si tu ne vois pas encore en toi cette beauté, fais comme le statuaire qui doit sculpter une belle statue. Il retranche, cisèle, émousse tel trait, affine tel autre, jusqu'à faire apparaître quelques belles figures sur le marbre. Fais donc de même, toi aussi, et de toi retranche tout ce qui est superflu, redresse tout ce qui est travers, dissipe toute opacité, et travaille à te rendre tout à fait limpide sans cesser jamais de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que t'illumine le divin éclat de la vertu jusqu'à découvrir la tempérance qui siège sur son auguste trône.
Si je suis devenu cela et le sais, si je me suis recouvré moi-même dans ma pureté, sans qu'aucun obstacle ne vienne empêcher cette unité, sans que rien ne vienne en moi-même se mêler à mon intimité, si je suis tout entier devenu lumière véritable, et seulement cela, une lumière que ne mesure aucune grandeur, dont le flot ne se réduit au contour d'aucune forme, ni n'augmente en retour indéfiniment en se répandant au hasard, une lumière qui est absolument sans mesure, parce qu'elle semble transcender toute mesure et excéder toute quantité. Si donc je vois et reconnais être moi-même devenu tout cela, alors je suis devenu vision.
Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour.
Merci Paola de cette conversation si loin de tout ce qui éloigne. Merci à François Connac, notre réalisateur, à Jean-Michel Bernot à la technique et bien sûr à Alice Ramon.
Et puis des filles de plus en plus, tu vas en rencontrer. Peut-être même.
Merci de nous avoir accompagnés tout cet après-midi. Plotin, c'est l'ancêtre, c'est le grand-père de tous ceux que l'unicité du monde émerveille sans décourager. Lisez-le, c'est merveilleux. Si vous n'en avez pas la force, lisez à tout le moins l'essai de Pierre Hadot, Plotin ou la simplicité du regard, en folio, c'est magnifique. Vous trouvez beaucoup de textes de Plotin dedans, qui sont comme des diamants sertis dans le style de Pierre Hadot, et ça fonctionne tout à fait. Cette émission, en tout cas, vous la retrouvez sur Internet, sur notre site Internet, à la page du Gai Savoir, où vous attendent téléchargements et bibliographies. Et puis deux annonces, évidemment, pour terminer cette émission. La première, les masterclass de Libération continuent cette semaine, en compagnie de Tony Negri, qui donc ce mercredi 5 décembre, de 19h à 21h, sera dans les locaux de Libération pour y parler de justice politique. Et puis les nouveaux chemins de la connaissance, bien sûr, qui consacrent toute leur semaine à l'autre, l'altérité. Donc c'est le sujet des nouveaux chemins de la connaissance, qui seront d'ailleurs cette semaine en partenariat avec le magazine littéraire. Tous les jours, donc de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sur France Culture.
Belle, belle, belle comme le jour.
17h sur France Culture, tout de suite, Frédéric Taddeï.